Bonjour, lundi 25 janvier. C'est la conversion de saint Paul. 6 ans après l'ascension, l'Église reçoit du Christ une grâce particulière qui sera déterminante pour l'avenir. Sur le chemin de Damas, le pharisien Saul de Tarse, qui avait obtenu des lettres de mission pour persécuter les sectateurs du charpentier de Nazareth, est jeté à bas de son cheval par un éblouissement de lumière. Toute la doctrine de saint Paul découlera de l'extraordinaire dialogue qui s'ensuivit. L'Église et le Christ ne font qu'un, et c'est ce corps mystique qui sera l'une des bases de l'ecclésiologie de saint Paul. C'est la résurrection qui s'affirme à lui comme une réalité incontournable. C'est un vivant qui lui parle et l'humanité du Christ s'établit dans la gloire de la divinité. L'Évangile s'impose avec une telle intensité qu'il en est aveuglé et terrassé jusqu'au moment où la lumière baptismale lui révélera le mystère. C'est donc quand il faisait route vers Damas, animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, Jésus en personne, que se révélera à lui dans sa gloire et le choisit pour que, rempli de l'Esprit Saint, il annonce parmi les nations l'évangile du salut en souffrant beaucoup pour le nom du Christ. Sont fêtés également ce jour-là les Saintes Ananie. Saint Ananie fut justement le compagnon de saint Paul, qui mourut en 60. Il était un fidèle observateur de la loi, mais très vite, il adhéra à la foi en Jésus-Christ, le Messie attendu. C'est lui qui éclaira saint Paul dans ses premiers tâtonnements au sein de l'Église et lui conféra le baptême. La disponibilité de ce laïc a été déterminante pour l'avenir de l'Église. C'est donc Ananie, le disciple du Seigneur, qui baptisa à Damas Paul après sa conversion. Mardi 26 janvier, sainte Paule, qui était une veuve romaine, disciple de saint Jérôme, et qui mourut en 404. Cette grande dame romaine avait épousé à 17 ans un mari qui la rendit heureuse et dont elle eut 5 enfants. Elle souffrit beaucoup quand elle le perdit. Alors, elle décida de rejoindre saint Jérôme en Palestine, puisqu'elle l'avait connu à Rome. Elle distribua son héritage à ses enfants et partit avec une de ses filles, sainte Eustochium, dans l'un des monastères fondés par saint Jérôme à Bethléem. Elle assura à saint Jérôme 2 biens précieux. Une grande part de sa fortune pour continuer les travaux du monastère et une grande patience pour calmer ses colères. D'une très noble famille de sénateurs romains, sainte Paul renonça au monde, distribua aux pauvres toutes ses richesses et donc avec sa fille Eustochium, bienheureuse Vierge du Christ, se retira auprès de la crèche du Seigneur. Très bonne fête aux Paul, Pauline, Paola, Paolina, Paula, Paulette. Mercredi 27 janvier. Sainte Angèle Merici. Elle fut la fondatrice de la compagnie de Saint-Ursule de Brescia et mourut en 1540. Sainte Angèle Merici, née en Italie du Nord, à Desenzano, entre 1474 et 1478. La première partie de sa vie, heureuse, et de courte durée. En quelques mois, l'adolescente perd ses parents et l'une de ses sœurs. Après ses deuils, vers l'âge de 16 ans, son oncle et sa tante, les Biancosi, la prennent chez eux. Angèle a déjà entendu parler de, ou tout au moins a déjà entendu l'appel de Dieu, et elle préfère passer son temps avec le Christ dans la prière et une vie simple plutôt que de s'adonner aux plaisirs mondains. À 18 ans, afin de pouvoir se consacrer au Seigneur librement et d'être admise régulièrement à la table eucharistique, fait rare à cette époque, elle demande à entrer dans le tiers-ordre de Saint François d'Assise et devient sœur Angèle. Elle travaille, prie, participe à la messe et communie le plus souvent possible. Elle jeûne et mène désormais la vie simple et au service des autres qu'elle désirait tant. Elle se sent alors pressée intérieurement d'accomplir sa mission, c'est-à-dire fonder une compagnie de femmes qui veulent se consacrer au Seigneur. Elles vivront leur consécration sans se retirer de leur lieu de vie. Là où elles seront, elles vivront leur vie de prière et seront attentives aux besoins des autres. Angèle, qui aime beaucoup Sainte Ursule, une martyre du IVe siècle particulièrement populaire à cette époque, la donne comme patronne à sa fondation. La transformation de la compagnie des ordres en ordre religieux après le concile de Trente a obligé les filles d'Angèle à entrer dans des cloîtres. Apostoliques, elles ont continué d'être apôtres en devenant éducatrices. Héritières de la pédagogie d'Angèle, qui excellait dans l'art d'accueillir et de conduire chacun, les Ursulines ont su alors devenir des formatrices à travers les siècles et spécialement au service de la jeunesse, selon la mission que l'Église leur a confiée. Angèle meurt le 27 janvier 1540. Elle est canonisée le 27 mai 1807 par Pie VII. Elle prit donc l'habit du tiers-ordre de Saint François et elle réunit ses jeunes filles pour les former aux œuvres de charité. Puis, sous le nom de Sainte Ursule, elle fonda donc cet ordre féminin avec pour objectif de pratiquer la vie de perfection dans le monde et d'instruire les adolescentes dans les voies du Seigneur. Elle mourut 5 ans après sa fondation à Brescia, en Lombardie. Saint Angèle Merici dit dans son testament: en tout, soyez aimables. Gardez-vous de vouloir obtenir par la force. En effet, Dieu donne à chaque être humain le libre arbitre. Le Seigneur ne veut faire violence à personne. Il propose seulement, il invite et conseille. Bonne fête à toutes les Angèles, Angela, Angelica, Angélie, Angelica avec un K, Angelina, Angeline, Angélique, Angeluno, Angeline avec un Y, Angie, Anglaise, Angie avec un Y. Aux dévotes, aux Juliens, Giuliano, Giuliane, Giuliane, Juliane, Giuliano avec un N, Juluane, Juliane. Mais également aux Manfred et aux Vitalia. Jeudi 28 janvier, Saint Thomas d'Aquin. Il fut prêtre, prêcheur, frère prêcheur, docteur de l'Église et mourut en 1274. Né dans une noble famille napolitaine Élevé à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, Thomas choisit cependant, à 19 ans, d'entrer chez les frères prêcheurs. Ce n'est guère du goût de sa famille, qui le fait enlever et enfermer. L'ordre dominicain est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il n'avait vraiment pas bonne presse dans l'aristocratie. Au bout d'un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie à Paris pour y suivre les cours de la bouillonnante université. Il a comme professeur Saint Albert le Grand. Pour ce dernier, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la leçon. Devenu professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour la mettre en œuvre. Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition patristique, ce sont les pères de l'Église, et la tradition patristique chrétienne, il élabore une pensée originale qu'il expose dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la Somme théologique. Comme professeur, il doit aussi soutenir de véhémentes controverses avec des intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des papes, mais c'est l'étude qui a toute sa faveur. À la possession de Paris, la grande ville, il dit préférer le texte correct des homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Saint Matthieu. Il meurt sur la route en chemin vers Lyon, où il devait participer au Grand Concile de 1274. Benoît XVI dit de Saint Thomas « Comme la vie entière, rappelle Thomas, l'esprit humain doit être sans cesse éclairé par la prière et par la lumière qui vient du ciel. » Dans la Somme théologique, dit encore Benoît XVI, Saint Thomas décrit les trois modes d'existence de Dieu. Dieu existe en lui-même. Il est principe et fin de toutes choses. Tout vient de lui et en dépend. Ensuite, Dieu se manifeste par la grâce dans la vie et l'action du chrétien et des saints. Enfin, il est tout particulièrement présent en la personne du Christ et dans les sacrements découlant de sa mission rédemptrice. Puis le pape a rappelé que Saint Thomas s'est tout spécialement intéressé au mystère eucharistique, pour lequel il avait une grande dévotion. À la suite des saints, attachons-nous à ce sacrement. Participons avec ferveur à la messe afin d'en retirer des fruits spirituels. Nourrissons-nous du corps et du sang du Seigneur afin de recevoir continuellement la grâce divine. Arrêtons-nous souvent devant le Saint-Sacrement, ce que saint Thomas d'Aquin a exposé avec rigueur dans son œuvre et en particulier dans la Somme théologique. Il l'a également transmis dans sa prédication. Son contenu correspond pratiquement entièrement à la structure du catéchisme de l'Église catholique. Dans une époque marquée par un fort souci de réévangélisation, ces thèmes fondamentaux ne doivent pas manquer, car ils sont ce en quoi nous croyons, le symbole de la foi, ce que nous récitons comme le Pater et l'Ave Maria, ce que nous vivons en vertu de la révélation biblique, ainsi que la loi de l'amour de Dieu et du prochain. Dans son opuscule sur le symbole des apôtres, Thomas explique la valeur de la foi. Grâce à elle, les âmes s'unissent à Dieu. La vie trouve sa juste voie et nous le moyen d'éviter les tentations. À qui pense que la foi est obtuse car on ne peut la prouver par nos sens, il offre une réponse complète. Ce doute est sans consistance car l'intelligence est limitée et ne saurait tout connaître. Seulement, si nous pouvions tout connaître du visible comme de l'invisible, ce serait une véritable faute d'accepter des vérités sur la simple base de la foi. Il est d'ailleurs impossible de vivre sans l'expérience de l'autre, là où la connaissance personnelle n'arrive pas. Il est donc raisonnable de croire en un Dieu qui se révèle dans le témoignage des apôtres. Revenant sur l'article de la Somme théologique consacré à l'incarnation du Verbe de Dieu, le Saint-Père a rappelé que pour saint Thomas, la foi chrétienne doit être renforcée par le mystère de l'incarnation. L'espérance s'accroît et se renforce en pensant que le Fils de Dieu est venu parmi nous, comme un de nous, pour communiquer sa divinité aux hommes. La charité est renforcée car il n'y a pas de signe plus évident de l'amour que nous porte Dieu, ni de voir le Créateur se faire créature. Saint Thomas d'Aquin, a conclu Benoît XVI, fut comme tous les saints, un grand dévot de Marie, qu'il a magnifiquement baptisé trône de la Trinité, lieu où elle se trouve son repos. Par l'incarnation, dans aucune créature autre qu'elle, les trois divines ne séjournent en plénitude de grâce et n'accordent d'aide par l'intercession de la prière. Saint Thomas d'Aquin, prêtre de l'ordre des prêcheurs et docteur de l'Église, doué des plus hautes qualités intellectuelles, transmit aux autres par ses prières et ses écrits sa sagesse éminente. Appelé par le pape lui-même, le bienheureux Grégoire X, au deuxième concile général de Lyon, il s'y rendit quand il mourut au monastère de Fossanova dans le Latium le 7 mars 1274. Bien des années après, en 1369, son corps fut transféré à Toulouse en ce jour. Saint Thomas d'Aquin dit dans la Somme théologique: la paix entre les hommes est mieux garantie si chacun se trouve satisfait de ce qui lui appartient. Ce qui convient le mieux à l'homme par rapport aux biens extérieurs, c'est de s'en servir. Sous cet angle toutefois, l'homme ne doit pas posséder ses biens comme s'ils lui étaient propres, mais comme étant à tous. Il doit donc être disposé à en faire part aux plus pauvres, suivant le conseil de saint Paul. Bonne fête au saint Thomas, au Charlemagne, au Gentil, au Joseph. Vendredi 29 janvier, saint Gildas, qui fut abbé en Bretagne, mort en 570. Ce noble breton voit le jour en Écosse vers la fin du 5e siècle, l'année où les bretons romanisés battent les saxons envahisseurs. D'après nombre d'agiographes, il aurait étudié dans un monastère du pays de Galles sous la direction d'un disciple de Saint-Germain l'Auxerrois. Ordonné prêtre en 518, cet apôtre surnommé le Sage convertit d'abord ses compatriotes par une éloquence sacrée aussi simple qu'efficace. Avec le même succès, il passe en Irlande. Saint Colomban, d'ailleurs, lui rendra hommage. Il se passe donc en Irlande pour aboutir en Armorique, la petite Bretagne continentale. D'abord installé dans l'île d'Ouatt, il va vivre en ermite dans la presqu'île de Ruys, qui ferme au sud le golfe du Morbihan. Il y fondera une abbaye qui porte aujourd'hui son nom et où on l'honore toujours. Abélard, le savant théologien du Moyen-Âge, en sera l'abbé au XIIe siècle. Troublé par l'effondrement de la civilisation romaine sous les coups successifs des envahisseurs saxons, il écrit « De la ruine en Bretagne », ouvrage qui connaîtra un grand succès durant tout le haut Moyen Âge. Saint Gildas, dit le sage, est né donc dans l'île de Bretagne. Il y a reçu son éducation dans le sud-est du pays de Galles actuel. Il s'établit sur le continent et y fonda avec quelques compagnons l'abbaye de Ruys, où il mourut en 570. L'abbaye de Ruys a conservé son tombeau et développé son culte. Saint Gildas est très connu sous les formes bretonnes Sainte Veltas ou Sainte Gueltas, du diocèse de Quimper et Léon, et l'abbatiale de Saint Gildas de Ruys abrite donc cette sépulture du saint mort en 570 sur l'île de Wight. Nous fêtons donc les Saint Gildas, et pour l'homélie du pardon de Saint Gildas de Ruys, dans l'oraison de la messe de Saint Gildas, dans le propre de Vannes, il est dit ceci. Tu as réuni, Seigneur, en Saint Gildas, le zèle du pasteur, la science du théologien et la vie de prière du moine. Accorde-nous de savoir, comme lui, te chercher dans le recueillement et te rencontrer dans le service de nos frères. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Samedi 30 janvier, Sainte Martine, qui fut vierge et martyre à Rome et mourut en 226. Dieu seul sait ce qu'elle a vécu. Elle fut en grande vénération à Rome pour y avoir subi le martyre. Elle est la sainte patronne de l'Église au XIIe siècle, Sainte Martine à Pont-du-Château, dans le 63. Le 30 janvier, nous fêtons donc les Martines en l'honneur de la Sainte Vierge, martyrisée à Rome en 226. Selon l'histoire, elle aurait été martyrisée et décapitée pour avoir donné et porté secours aux pauvres. L'étymologie de Martine associe ce prénom à la personnalité du dieu Mars. Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre, mais il est aussi le protecteur de la cité. Il ouvre le printemps, évoque la jeunesse, la force et le renouveau. Le prénom de Martine est donc un prénom parfait pour les femmes de tempérament. Si elle était un animal, ce serait une louve. Si elle était une saison, ce serait le printemps. Si elle était une période, ce serait la force de l'âge. Si elle était un jour de la semaine, ce serait un mardi. Le dicton du jour de la Sainte Martine dit ceci. Prends garde à la Sainte Martine, car souvent l'hiver se mutine. Bonne fête aux martyrs, Armentère, Bathilde, Bertille, Hyacinthe, Jacinthe, et également Sébastien. Dimanche 31 janvier, Sainte Marcella, qui fut moniale à Rome et disciple de Saint Jérôme, et mourut en 410. Noble dame romaine, qui la première, n'hésita pas à faire publiquement et ouvertement profession de dévotion. Belle, riche, cultivée et raffinée, personne n'osait se moquer d'elle. Son palais, sur la colline de l'Aventin, fut bientôt le centre de toutes celles qui, autour de Saint Jérôme, voulaient suivre les conseils évangéliques, secourant les pauvres, visitant les malades, adoucissant le sort des esclaves. Lorsqu'en 410, les barbares d'Alaric s'approchèrent de Rome, ses amis s'enfuirent pour aller rejoindre Saint Jérôme en Palestine. Trop âgée, elle avait 85 ans. Elle resta à Rome et les soldats goths la battirent durement pour lui faire avouer où étaient ses richesses. Elle n'en avait plus, les ayant données aux pauvres. Elle mourut quelques jours plus tard de ses blessures. Les synaxaires des églises d'Orient la commémorent également. Comme l'écrit Saint Jérôme, elle méprisa richesses et noblesses et se rendit plus noble par sa pauvreté et son humilité. Très bonne fête aux Saintes Marcelles. Nous fêtons également ce jour-là Saint Jean Bosco, fondateur et éducateur. Saint Jean Bosco fut fondateur de la Société de Saint François de Sales et de l'Institut des filles de Saint Marie Auxiliatrice. C'était un fils de pauvre paysan piémontais. Adolescent, il joue à l'acrobate pour distraire sainement les garnements de son village. Devenu prêtre à force de sacrifices, il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin, abandonnés à eux-mêmes. Il crée pour eux un centre de loisirs, un patronage, puis un centre d'accueil, puis des ateliers. Rien de tout cela n'était planifié à l'avance, mais ce sont les besoins immenses qui le pressent. Jamais il ne refuse d'accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si l'argent manque. Plutôt que de refuser, il multipliera les châtaignes, comme son maître multipliait les pains en Palestine. Sa confiance absolue en la Providence n'est jamais déçue. Ses enfants seront bientôt des centaines et tous se feraient couper en morceaux par Don Bosco. Sa maman, Marguerite, vient s'installer près de lui et jusqu'à sa mort, elle lui cuira la polenta et ravaudra leurs vêtements. Très marqué par la spiritualité de Saint François de Sales, Jean Bosco invente une éducation par la douceur, la confiance et l'amour. Pour ses garçons, il fonde l'oratoire, l'œuvre, qui sera à l'origine de la congrégation des prêtres salésiens. Pour les filles, il fonde la congrégation de Marie Auxiliatrice. Don Bosco mourra épuisé en butte à l'hostilité de son évêque qui ne le comprend pas, mais entouré de ses disciples. Il connut donc une enfance pauvre et dure, et après son ordination, il mit à Turin toute son énergie à l'éducation des jeunes et fonda donc la Société de Saint François de Sales et avec l'aide de Sainte Marie Dominique Mazzarello, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice pour enseigner aux jeunes un métier et la vie chrétienne. Après avoir réalisé tant de projets, il mourut à Turin en 1888. Au revoir et à la semaine prochaine.